Vous êtes avec SBS French. Le journal des sports de ce dimanche avec tout d'abord le foot en France, la 15e journée. Il y avait 6 matchs hier samedi après la victoire vendredi de l'OM contre Brest 2-1. Il y a donc Lyon a battu Strasbourg 2-1, Nîmes et Metz ont fait match nul, 1 but partout. Victoire de Lille contre Dijon 1-0. Victoire également de Montpellier contre Amiens 4-2. Le match nul entre Bordeaux et Reims 1 but partout. Nice a battu Angers 3-1. Ce dimanche, Nantes jouera contre Toulouse, Rennes contre Saint-Étienne et Monaco contre le Paris Saint-Germain. Le tirage sort des groupes de poule pour l'Euro 2020 à Bucarest hier. Pas une bonne annonce pour les champions du monde français. Le point avec Thomas de Saint-Léger et Cédric De Oliveira pour Radio France Internationale.
Alors, même si 4 derniers billets doivent encore être attribués en mars après l'ultime barrage, les cadors du continent sont fixés, notamment l'équipe de France, les champions du monde qui ont hérité d'un groupe particulièrement difficile.
Ah, il s'y attendait un peu, Didier Deschamps. La France n'était pas tête de série pour ce tirage au sort. Elle était donc exposée à un tirage difficile. Ce sera donc l'Allemagne, vainqueur de la Coupe du Monde en 2014, le Portugal, tenant du titre qui avait justement battu les Bleus en finale lors du précédent Euro en 2016, et un troisième adversaire qui sera donc connu après les barrages. Bref, pas simple pour les Bleus, malgré leur statut de champion du monde. Didier Deschamps a bien conscience de la difficulté de l'adversité, mais pour lui, ce sera dur pour tout le monde.
Difficile, oui. Mais je pense que Joachim Löw et le sélectionneur du Portugal pensent la même chose. Voilà, c'est le groupe le plus difficile, mais on doit l'accepter, c'est comme ça. Donc évidemment, ça demandera à l'équipe de France d'être prête tout de suite, puisqu'on a notre premier match qui est contre l'Allemagne à Munich, qui a cet avantage aussi de jouer à domicile. Donc forcément, un groupe compliqué sur le papier, de par la qualité de ces deux adversaires et les récents résultats qu'ils ont eus sur le plan européen et mondial.
Didier Deschamps et son staff qui l'ont confirmé, leur camp de base sera à Clairefontaine et ils débuteront ensuite, vous l'avez compris, face à l'Allemagne à Munich le 16 juin, puis ils se rendront à Budapest en Hongrie pour y affronter un barragiste le 20 et le Portugal le 24, puisque vous le savez Thomas, cet Euro se dispute dans 12 villes différentes cette année.
Et le match d'ouverture, il aura lieu à Rome le 12 juin.
Il opposera l'Italie à la Turquie dans un groupe A particulièrement ouvert avec également la Suisse et le Pays de Galles. En revanche, ça semble plus simple pour la Belgique, l'un des favoris qui a hérité de la Russie, du Danemark et de la Finlande. Pas de souci non plus, a priori, pour les Pays-Bas qui affronteront l'Ukraine, l'Autriche et un fameux barragiste.
Les Pays-Bas qui joueront à domicile à Amsterdam, tout comme l'Angleterre qui disputera ses 3 rencontres de groupe à Wembley.
Les Three Lions qui seront dans le groupe D avec la République tchèque, un barragiste et la Croatie, retrouvaille donc avec ceux qui les avaient battus en demi-finale du dernier mondial. Forcément, le duel est très attendu. Mais pour le sélectionneur Gareth Southgate, hors de question de se focaliser uniquement sur ce match.
Nous devons bien jouer, c'est tout. Ça ne change rien d'être à domicile si vous êtes mauvais. Bien sûr, c'est fantastique pour nous d'avoir des matchs à la maison et d'affronter une nation comme la Croatie. Ce sera un grand événement pour tous nos supporters. Mais notre premier objectif, c'est de sortir du groupe. Et c'est une stratégie sur 3 matchs, pas sur un seul.
L'Angleterre-Croatie, ce sera le premier match pour Gareth Southgate et ses joueurs. Et puis il y a un dernier groupe dont on n'a pas encore parlé. L'Espagne jouera, elle, ses 3 matchs à domicile à San Mamés, à Bilbao, face à la Pologne, la Suède et un barragiste. Ces barrages qui se tiendront donc fin mars. 4 tournois rassemblant 4 équipes et les vainqueurs auront le droit d'aller à l'Euro.
En Angleterre, la Premier League, la 14e journée marquée par la 13e victoire de Liverpool. Philippe Auclair pour RFI revient sur les matchs d'hier avec Thomas de Saint-Léger.
14e journée, 13e victoire pour Liverpool, 2-1 contre Brighton. C'était ric-rac, mais voilà, ça passe encore pour Jürgen Klopp et ses Reds.
Ça devient un petit peu le leitmotiv, je dirais, de la saison de Liverpool. Et ça peut paraître extraordinaire quand on voit qu'ils ont 40 points après 14 journées, qui est un total absolument phénoménal. Mais chaque fois, Liverpool doit bagarrer, doit cravacher pour obtenir ses trois points. Ça a encore été le cas aujourd'hui, alors qu'on pensait le match, in the pocket, on va dire, pour Liverpool après le doublé de Van Dijk sur des services, comme par hasard, de Trent Alexander-Arnold. On se disait, bon, pour une fois, ça va se jouer tranquillement. Et puis non, encore une fois, il a fallu que Liverpool se bagarre jusqu'à la fin, cravache. C'est difficile de ne pas avoir l'impression que cette équipe de Liverpool est d'une certaine manière, je dirais pas qu'elle roule sur la jante, mais en tout cas qu'il y a un petit peu moins d'air dans ses pneus que d'habitude. Et cela depuis le début de la saison, mais à chaque fois que des questions leur sont posées, à chaque fois, la réponse est apportée. Aujourd'hui, ça a été dans la douleur, mais encore une fois, c'est trois points, un 2-1, un nouveau 2-1. Je perds d'ailleurs le compte pour le nombre de 2-1 de Liverpool cette saison. C'est tout à fait étonnant. Vu les résultats qu'il y a eu ailleurs en Premier League, ça leur suffit amplement pour lancer maintenant ce sprint du mois de décembre qui va être absolument infernal pour eux, puisqu'ils vont disputer, si je ne m'abuse, 10 matchs entre la prochaine journée de championnat et le 3 janvier, ce qui est absolument hallucinant.
Alors, vous l'aviez un petit peu esquissé, les résultats des autres grands d'Angleterre, deux contre-performances aujourd'hui pour le Big Five, City tenu en échec à Newcastle de partout, et Chelsea battu à domicile par West Ham 1-0. Vous étiez à Stamford Bridge, Philippe, pour voir des Blues, je dirais impuissants cet après-midi.
Oui, et manquant de tranchant, à qui l'absence de Tammy Abraham, qui est un attaquant tellement mobile dans ses appels, mais également excellent dans la finition, on le sait, a fait beaucoup de mal. Frank Lampard avait décidé de titulariser Olivier Giroud, qui a paru vraiment très rusty, comme on dit en Angleterre, c'est-à-dire à court de compétition. On a vu une équipe de Chelsea qui n'avait pas son allant habituel, qui était plus lente dans les transitions, qui s'est créé de nombreuses occasions, notamment en première période, avec un Pulisic qui était par moments intenable. Mais, ils ne sont pas parvenus à gagner face à une équipe de West Ham, franchement transfigurée par rapport à sa performance du week-end dernier contre Tottenham, et qui, ma foi, fort logiquement, est reparti avec les trois points. Ce n'est qu'un petit accro dans le parcours de Frank Lampard, mais un accro qui fait mal au niveau de la course pour le titre, car ils sont maintenant à 14 points de Liverpool.
On passe maintenant en Afrique avec la fin de la première journée de la phase de groupe de la CAF, la Coupe de la Confédération et la belle performance du tout-puissant Mazembe qui fête en ce moment ses 80 ans. Antoine Grenier, Radio France Internationale.
Un duel de quintuple vainqueur de Ligue des Champions face aux Égyptiens du Zamalek. Et comme souvent avec Mazembe, on fait appel à la fois aux jeunes et aux vieux. Jackson Muleka, la pépite, s'offre un doublé du haut de ses 22 ans, tandis que Trésor Mputu, la légende, a marqué le deuxième but des Corbeaux pour un succès net 3-0. Mais l'homme clé de ce succès, c'est surtout Patou Kabangu, triple passeur décisif. Dans ce même groupe, les Zambiens de Zesco United sont allés chercher le nul, un partout sur la pelouse des Angolais du Primeiro de Agosto. Du coup, ce soir, le tout-puissant Mazembe est seul en tête, tandis que dans la poule D, vainqueur sur tapis vert de la précédente édition, l'Espérance de Tunis n'aura mis qu'un quart d'heure à tuer le suspense dans son premier match. Anis Badri ouvre le score à la 8e minute contre le Wydad. Pardon, Anis Badri ouvre le score à la 8e minute et Ibrahim Ouattara double la mise d'une Madjère à la 15e face au Raja Casablanca. 2-0, score final. Pas plus d'incertitude dans la poule C entre les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns et les Angolais du Petro de Luanda. Les Sud-Africains, large vainqueur, 3-0. Enfin, dans la poule C, l'USM Alger et le Wydad Casablanca se quittent dos à dos. Un partout entre les Usmistes et les finalistes de la dernière Ligue des Champions.
On passe au handball avec les handballeuses françaises, championnes du monde en titre, qui défendent leur titre au Japon. Et c'est mal parti hier. Elles ont été battues par la Corée du Nord, par la Corée du Sud plutôt, 29-27. Écoutez la pivot Béatrice Edwige sur RFI.
Je comprends pas la tournure du match. J'arrive pas à voir à quel moment on a lâché, je sais pas si je peux dire lâché ou perdu pied. J'ai pas envie de dire lâché parce que je pense pas que ce soit ça. Il y a eu un moment dans le match où on s'est pas rendu compte que on s'est dit bon ça va, un but on va revenir, deux buts on va revenir, sauf que elles ont continué à appuyer et nous on a été un peu moins dans l'agressivité et c'est ce qui nous fait défaut ce soir.
Et puis un mot de Formule 1 avec le Grand Prix d'Abu Dhabi ce dimanche avec le Britannique Lewis Hamilton qui a pris la pole position. Voilà pour le journal des sports de ce dimanche.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où où vous obtenez vos podcasts.